Chapitre 15. Étourderie coupable. Mount Pleasant, New Hampshire. Lundi 12 juillet 2010. La véritable raison de ma présence dans le New Hampshire avait été éventée par l'historique de mes recherches que j'avais omis d'effacer lors de mon passage aux archives du Mount Pleasant Star. Le réceptionniste était allé fouiner derrière moi, avait découvert le poteau rose et s'était empressé de prévenir la rédaction. Comment avais-je pu être aussi négligent? J'étais catastrophé. Sur le conseil de Galwood, je rappliquais à Concorde. Je n'aspirais qu'à fuir Mount Pleasant, de toute façon. Je pensais à Lorraine, à ses parents, surtout à sa mère qui m'avait accordé sa confiance. Le soleil se levait doucement sur l'horizon, tandis que je filais en direction de la capitale du New Hampshire. Je roulais vite, il n'y avait pas de circulation, j'arrivais plus rapidement que prévu à Concorde. Par hasard, en sortant de l'autoroute, je me retrouvais à longer le parking du Fanny's où Hélène était décédée 2 mois auparavant. Je m'y arrêtais, sans savoir si je faisais un pèlerinage ou si j'avais besoin d'un café. J'étais un peu perdu. À mesure que l'Amérique se réveillait, la nouvelle faisait le tour des médias, en quête d'un peu de sensationnel en cette période creuse de l'année. Elle fut bientôt reprise par l'ensemble des flashs d'information du matin. Mon éditeur Roy Barnaski me téléphona, extatique.
« Sacré Goldman »
exulta-t-il au téléphone.
« Déjà un nouveau livre en préparation, et une affaire criminelle en plus. C'est génial, c'est ce que tout le monde réclamait. Et puis le titre est tout trouvé, l'affaire Alaska Sanders. Quand est-ce qu'on prévoit la parution ?»«
Je vous le répète, il n'y a pas de livre, Roy. »«
Taratata, petit cachotier, c'était donc ça que vous maniganciez au prétexte d'une séance de dédicace. »
Roy, je me suis juste fait piéger par un petit con qui travaille pour le journal local.
Vous vous êtes laissé piéger,
nuança Roy,
pour qu'on parle de vous. Parce que vous aimez ça, créature narcissique. Et c'est tant mieux. Je vais réunir l'équipe marketing et on se fait une conférence téléphonique, d'accord? C'est formidable.
Je lui raccrochai au nez. Le chef Lansdane était nettement moins enthousiaste que Barnaski. Ce matin-là, à peine Galwood et moi avions-nous pénétré dans son bureau qu'il explosa. « Marcus, vous êtes soit inconscient, soit complètement idiot !»«
Peut-être un peu des deux ?» suggéra Galwood.
« Je ne suis pas d'humeur à plaisanter, Perry. J'ai déjà eu le gouverneur au téléphone et il va falloir que je m'explique devant la presse tout à l'heure. »«
J'ai été négligent, concédai-je. N'y voyez aucune malice de ma part. »«
Oh, ne vous inquiétez pas, Marcus, je n'y vois aucune malice, uniquement de la bêtise. »
« La bonne nouvelle, » intervint Galwood, « c'est qu'on a la preuve que Walter Carey est innocent. »
Il montra à Lansdane la photo prise au National Anthem à l'heure du crime.
« Vous appelez ça une bonne nouvelle ?» maugréa Lansdane. « J'appelle ça de sérieuses emmerdes en perspective. »
J'entamai une passe d'armes avec Lansdane.
« C'est la preuve que vous réclamiez pour rouvrir le dossier, non ?»«
C'est à moi d'en décider » vociféra-t-il. « Mais depuis le début de cette affaire, vous êtes dans la contradiction, » m'emportai-je. « Vous vouliez que j'enquête sous le prétexte d'écrire un livre. Vous êtes servi ?»«
Oh, du calme, » intervint Galwood. « Ça ne sert à rien de s'exciter. Il faut agir. »« Chef, j'ai le sentiment que cette situation, malgré les apparences, vous est favorable. On ne divulgue aucune information à ce stade. Vous utilisez l'écrivain comme fusible. Vous dites que suite aux annonces parues dans les médias, vous devez, par diligence, détacher un policier pour des contrôles de rigueur.
Ce policier, c'est vous, j'imagine.
Oui. Marcus et moi continuons notre enquête en toute discrétion. Pas de vagues, c'est promis. Il ne sera question que du livre de Marcus. Les langues vont facilement se délier. Les révélations viendront lorsque nous aurons toutes les réponses à nos questions. Ce sera alors beaucoup plus facile à gérer pour vous.
Lansdane nous dévisagea. On le devinait très agacé, mais il n'avait pas le choix. «
Le gouverneur menace de me faire sauter s'il n'y a pas de résultat avant la fin du mois. »« On fera de notre mieux, » assura Galwood.
« Vous sautez aussi, Perry. Si je saute, tout le monde saute. »
Galwood envoya Lansdane dans les cordes en répondant d'un ton neutre. « Vous savez, chef, j'ai perdu ma femme. Alors perdre mon boulot. »
En quittant le siège de la police d'État, j'étais d'humeur morose. Galwood le remarqua immédiatement. Alors que nous avions pris place dans l'habitacle de ma voiture, Je restais les mains sur le volant, un peu hébété, sans démarrer.
On en a vu d'autres, l'écrivain,
me réconforta Galwood.
Je sais bien, sergent. C'est surtout la situation avec Lorraine qui vous embête, hein?
Touché.
Je suis désolé, l'écrivain. Mais bon, voyez les choses du bon côté. Vous êtes la clé pour cette enquête qu'elle mène depuis 11 ans. Elle sera obligée de vous recontacter.
On verra bien, sergent.
Allez, en route. On va pas passer la journée sur un parking.
Où allons-nous?
C'est le premier jour de notre deuxième enquête ensemble, l'écrivain. Ça se fête. On va aller acheter des beignets et du café.
Je souris. Je n'imaginais pas que vous diriez ça un jour, sergent.
Quoi donc?
Que vous vous réjouiriez d'une nouvelle enquête en ma compagnie. Quand on sait comment ça a débuté entre nous au moment de l'affaire Harry Kébert.
Ne vous accordez pas trop de mérite, l'écrivain. Depuis que je suis veuf, je n'aime plus la solitude. Personne n'aime la solitude quand on vous l'impose.
Oh, j'ai presque cru que vous me faisiez une déclaration d'amitié.
Dans vos rêves. Allez, roulez.
Et à part ce gavet de beignet, vous avez un plan d'attaque, sergent?
Évidemment. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit à l'époque, au tout début de l'enquête sur Nola Kellerghan?
Je me souvenais précisément du conseil de Galwood. Il faut se concentrer sur la victime, pas sur le meurtrier, dis-je.
Exactement.
On va à la rédaction du Salem News, l'écrivain.
Il est temps de creuser dans le passé d'Alaska et de découvrir ce qui s'est passé à Salem.
Contrairement à ce que son nom laisse supposer, la rédaction du Salem News ne se trouve pas à Salem, mais à Beverly, une ville limitrophe. Le journal avait fusionné 15 ans plus tôt avec le Beverly Times, dont il partageait depuis les locaux, situé au 32 Dunham Road dans la zone industrielle. Une réceptionniste alanguie nous accueillit avec flegme. Lorsqu'il fut question de retrouver des archives de la fin des années 90, elle prit une mine épouvantée.
« Impossible de remonter au-delà de 2000 »,
nous assura-t-elle.
« Il y avait bien un projet de numérisation des archives, mais ils ne sont jamais allés au bout. »
Galwood lui montra la copie de l'article retrouvé dans les dossiers de Vance.
« Nous cherchons des informations sur Alaska Sanders. »
La réceptionniste plissa des yeux en regardant la page.
« Ça ne me dit rien, mais je peux appeler Goldie si vous voulez. Elle est là. »
« Goldie ?»«
Goldie Hawk, je vois que c'est elle qui a signé cet article. » Elle travaille toujours pour le journal.
Peu après, une femme élégante d'une cinquantaine d'années se présenta à nous. Elle me reconnut aussitôt.
Marcus Goldman.
J'acquiesçai.
Enchanté, madame, et voici le sergent Perry Galwood. Comme dans le livre?
Comme dans le livre,
soupira Galwood. Alaska avait eu les honneurs du journal à plusieurs reprises. Goldie Hawk put nous donner accès à l'ensemble des articles qui lui avaient été consacrés, elle les avait écrits. Elle nous installa autour de son bureau désordonné et sortit un épais classeur dans lequel se trouvaient tous les articles qu'elle avait rédigés depuis son arrivée au journal.
C'est ma mère qui a tout conservé religieusement. Pour mes 50 ans, elle m'a offert cette compilation. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Les articles sont classés chronologiquement. Ceux concernant Alaska sont vers le début.
Les premiers articles couvraient des concours de Minimis, ces concours de beauté pour enfants et adolescents.
Dans ces années-là, nous expliqua Goldie Hawk, j'étais toute jeune. C'était mon premier poste. Le rédacteur en chef était un type un peu vieux jeu qui considérait que le Salem News était avant tout un journal local. Il ne se prenait pas pour le New York Times. Il voulait du contenu régional. Les kermesses, les événements sportifs ou encore les concours de petites miss qui avaient un écho important. Évidemment, tous les autres journalistes de la rédaction se pinçaient le nez. Moi, je m'y suis collé. Résultat, 25 ans plus tard, je suis toujours là. Et allez savoir si c'est un mal ou un bien.
Elle sourit à sa propre réflexion.
Bref, la couverture de ces concours constituait également un enjeu économique, parce que plusieurs familles dont les filles concouraient étaient des annonceurs du journal.
Nous tombâmes finalement sur les articles consacrés à Alaska dès l'année 1993. À partir de l'âge de 16 ans, elle avait remporté de nombreuses compétitions de beauté. Je regardais les photos prises au fil des ans. Elle y apparaissait radieuse. «
Et donc Alaska ?» demandai-je. Alaska est arrivée sur le tard, un peu par hasard. Comme ça marchait bien, elle a poursuivi l'aventure. Alaska était différente des autres filles.
Comment cela ?
Elle aurait été supérieure en tout point. Plus intelligente, plus mûre, plus belle. Et puis, elle ne cherchait pas la gloire. Elle n'avait pas vraiment d'ego. Elle s'en fichait, à vrai dire. Elle participait à ses compétitions dans deux buts. Percer dans le cinéma et gagner de l'argent. Tous ses prix sont bien dotés. Elle se constituait une petite cagnotte. Je me souviens qu'elle m'en avait parlé un jour. J'avais été surprise par sa maturité. Elle m'avait dit « Je confie l'argent à mes parents qui mettent 10% des gains sur mon compte personnel et le reste sur un compte auquel je n'ai pas accès. Ce sera ma bourse pour le jour où je voudrais m'installer à New York ou Los Angeles. » J'avais été impressionné par cette adolescente déterminée qui avait déjà échafaudé tout un plan de carrière. J'étais certaine que je la verrais un jour à l'affiche. N'aurais jamais imaginé qu'elle finirait assassinée dans un bled du New Hampshire. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là-bas ?
C'est une bonne question, dis-je.
Vous remarquerez que je n'ai rien écrit à propos de sa mort. J'ai laissé un collègue s'en charger. J'aurais eu l'impression de la salir en évoquant ce sordide fait divers.
Le dernier article que Goldie Hawk avait consacré à Alaska était celui retrouvé dans le dossier de Vance. Il s'agissait d'un portrait de la famille Sanders publié dans l'édition du lundi 21 septembre 1998. Le samedi précédent, Alaska venait de remporter le grand concours de Miss Nouvelle-Angleterre.
C'était une étape importante pour sa carrière. Il s'agissait de son premier concours d'adulte. Tout le monde était très excité pour elle. J'ai eu envie de lui consacrer un article à part entière, au-delà du cadre du concours. Interroger ses parents et raconter le quotidien de cette famille, centrée autour de la carrière de la jeune femme, dont on espérait qu'elle deviendrait la prochaine grande actrice américaine. Pour la photo, on les a fait poser tous les trois.
Je me penchai sur le cliché. On y voyait Alaska, en robe de mousseline blanche, entourée de ses parents, dans le salon de leur maison du quartier de Mac Park. 12 ans plus tard, le salon de Robbie et Donna Sanders n'avait pas changé. C'est ce que Gale Wood et moi constatâmes en leur rendant visite au sortir de la rédaction du Salem News. Même canapé en sky, même moquette épaisse, même bibelot sur les étagères. Selon Gale Wood, les parents Sanders eux-mêmes n'avaient pas changé. En nous ouvrant la porte, Donna Sanders murmura simplement
« Alors c'est vrai? Vous rouvrez l'enquête ?»
Avant de parler d'Alaska, il y eut un cérémonial. Nous nous installâmes dans le salon, Donna nous apporta du café et insista pour que nous goûtions ses muffins faits maison. Puis elle passa en revue le contenu d'une boîte en carton renfermant des souvenirs de sa fille. Il y avait pêle-mêle des photos, une brosse à cheveux, des billets de concert, un bracelet en plastique, plusieurs diadèmes en toque, vestiges des concours de beauté. Donna était penchée sur la table basse, à manipuler ses trésors, tandis que Robbie, les bras croisés, était assis au fond du canapé.
« Rien de tout cela ne la fera revenir, » dit-il, agacé par l'étalage des reliques, « et rouvrir ce dossier encore moins. Pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles ?»«
Enfin, Robbie, tu ne veux pas savoir ?» protesta Donna. « Le sergent Gallowood dit que l'assassin serait en liberté. »«
Ce n'est qu'une supposition, » insista Gallowood. « Je regrette de vous faire revivre cette épreuve, mais s'il y a un doute, il faut le lever. »« Qu'est-ce que ça changera pour nous ?» ironisa amèrement Robbie Sanders. « Rien. Cela n'apaisera malheureusement en rien votre peine. Mais j'ai la conviction qu'il est important de découvrir ce qui s'est réellement passé. Et puis surtout, un innocent est peut-être emprisonné depuis 11 ans. »«
Un innocent ? Accablé par des preuves irréfutables et qui a plaidé coupable ?»
s'emporta Robbie. « Qu'est-ce que vous voulez, sergent ? Vous venez quérir notre bénédiction pour ouvrir à nouveau nos plaies ?»«
Je viens chercher des réponses à des questions, monsieur Sanders. Des questions que j'aurais peut-être dû vous poser à l'époque. Par exemple, qui était vraiment Alaska ? Comment ça ? Quels étaient ses rêves, ses aspirations, ses regrets, ses doutes ? Je me demande si je ne suis pas passé à côté de quelque chose en 1999. Je viens de découvrir qu'Alaska, à l'époque, s'était confiée à son employeur à Mount Pleasant. Elle aurait évoqué quelque chose qui s'est passé à Salem. Alors je vous le demande, madame et monsieur Sanders. Que s'est-il passé à Salem qui a visiblement marqué votre fille ?
Donna et Robbie Sanders se dévisagèrent, interloqués.
Rien dont nous soyons au courant ?
Finit par répondre Donna.
Alaska était une fille rayonnante. La vie lui souriait. Il lui arrivait d'être soucieuse, comme tout le monde, et je n'ai pas en tête un événement particulier. Se serait-il passé quelque chose au lycée ? Il faudrait interroger ses amis d'alors. Je peux vous donner les noms, si vous voulez. Vous savez, elle était assez secrète.
Donna Sanders nous fit ensuite le portrait d'une jeune femme qui suscitait l'admiration autour d'elle. Alaska, leur fille unique, leur lumière. Joviale, intelligente, drôle et douce, Alaska a l'éternelle bonne humeur, louée par des professeurs, aimée de ses amis. Parfaite et perfectionniste. Petite, Alaska aimait faire rire. Elle amusait la galerie avec des pitreries qui devinrent bientôt des imitations irrésistibles. Des réunions de famille aux spectacles de fin d'année, elle remportait un succès sans cesse grandissant.
« C'était une actrice née !»
nous raconta Donna Sanders.
« Elle avait un talent fou. Pour ses 12 ans, nous sommes allés passer un week-end à New York City. Elle rêvait d'aller voir une pièce à Broadway. Nous l'avons emmenée voir Le Marchand de Venise. Je pensais qu'elle s'ennuierait prodigieusement. Elle a tellement aimé ça qu'elle a décidé de faire du théâtre. Elle a rejoint une troupe locale qu'elle a fréquentée jusqu'à la fin du lycée. Elle avait trouvé sa vocation, devenir actrice. Alaska était également très coquette. Elle aimait bien faire les magasins. Pour compléter son argent de poche, elle s'est mise à faire du babysitting. Les enfants l'adoraient, les parents aussi. Elle s'est constituée tout un réseau. Mais vers l'âge de 15-16 ans, elle a changé, je veux dire physiquement. En quelques mois, elle s'est métamorphosée. L'enfant au physique ingrat a laissé place à une adolescente qui paraissait femme et embellissait un peu plus chaque jour.
Salem, juin 1993.
Je comprends, Madame Myers. Aucun problème. À bientôt.
Alaska raccrocha le téléphone mural de la cuisine. Elle s'assit en tailleur sur la banquette et posa la tête sur ses mains en signe de dépit. C'était un vendredi en fin d'après-midi. Donna Sanders entra dans la cuisine et s'inquiéta de trouver sa fille prostrée.
« Que se passe-t-il, ma chérie ? Madame Myers vient d'appeler. Elle a annulé mon babysitting de ce soir. Son mari n'est pas bien et il reste à la maison. » « Ça peut arriver, qu'est-ce qui te tracasse ?» Madame Myers avait l'air bizarre au téléphone. Et c'est la 3e annulation en 15 jours. Il faut que je gagne ma vie, moi. »
Donna éclata de rire.
« Tu sais quoi, ma chérie ? Si on sortait toutes les deux ce soir, on va au centre commercial, on se fait un peu de shopping, on dîne et on va au cinéma. »« Papa sera d'accord ?»
demanda Alaska.
« Je l'ai entendu se fâcher l'autre jour à cause de la carte de crédit. » « Ton père n'est pas là ce soir, ce sera une sortie entre filles, et personne ne sera au courant de quoi que ce soit »,
sourit Donna Sanders en attrapant un pot en terre cuite sur l'étagère, dont elle sortit une poignée de billets.
« J'ai ma petite réserve secrète. » « Tu sais ce qu'on dit ? Ce qui n'apparaît pas sur le relevé de la carte de crédit n'a jamais existé. »
Le visage d'Alaska s'illumina. L'idée d'une sortie avec sa mère l'enchantait. Une demi-heure plus tard, les deux femmes se rendaient dans un grand centre commercial avoisinant. Elles suivirent le programme proposé par Donna. Flânerie, achat, puis elles mangèrent une pizza chez New York Pizza avant de se rendre au cinéma. Elles voulaient voir Jurassic Park dont tout le monde parlait. Tandis qu'elles faisaient la queue pour acheter les billets, elles tombèrent nez à nez avec les Myers.
« Madame Myers ?» s'étonna Alaska. « Vous êtes finalement sortie ?»
La Madame Myers en question était visiblement gênée. Son mari n'avait pas l'air de savoir de quoi il retournait. « Pourquoi ne serait-on pas sorti ? » demanda-t-il.
« Votre femme m'a dit que vous étiez souffrant, » expliqua Alaska qui n'était pas dupe. « Vous m'avez l'air d'aller beaucoup mieux. Je suis contente de ce rétablissement éclair. »
Madame Myers était cramoisie. Le guichet des billets se libéra et Donna Sanders saisit l'occasion pour mettre un terme à cette situation embarrassante.
« C'est à nous, Alaska. Bonne soirée !»
Elle entraîna sa fille par le bras.
« Maman, elle m'a menti !»
s'offusqua Alaska.
« Je sais, ma chérie. Mais pourquoi elle a fait ça ? Je m'occupe très bien de ses enfants. J'en suis absolument certaine, ma chérie. »
Donna Sanders savait parfaitement pourquoi Madame Myers ne voulait plus avoir recours au service de sa fille. Elle-même se rendait bien compte qu'Alaska attirait tous les regards.
Partout où elle allait, sa fille faisait tourner les têtes. Alaska était probablement la seule à ne pas mesurer l'effet qu'elle produisait sur les gens, et sur les hommes en particulier, malgré ses 16 ans. Et ni Madame Myers, ni aucune mère de famille n'allait vouloir de cette jeune femme pulpeuse à proximité de leur mari.
Pauvre Alaska, ça lui a flanqué un coup. Madame Myers lui a fait perdre toute sa clientèle. C'est une petite communauté et les gens parlent entre eux. Madame Myers a expliqué à ses amis que son mari, l'ayant déjà trompée une fois, elle n'allait certainement pas lui mettre Alaska dans les pattes. Et voilà que toutes ces idiotes ont considéré leurs époux comme des prédateurs incontrôlables. Bonjour l'ambiance. Attention à Alaska, voilà le message qu'elle envoyait. Comme si ma fille était une diablesse. J'étais dégoûté pour elle. Mais Alaska n'était pas du genre à se laisser abattre. Cet été-là, pour remplacer ses babysitting, elle a trouvé un petit boulot chez un marchand de glace. De nouveau, affluence et gros pourboire. Un jour, l'un des clients lui a proposé de participer à un concours local de Minimis qu'il organisait. Il lui a dit qu'elle avait toutes ses chances, qu'elle pourrait même devenir mannequin. Elle a décidé de se lancer. Et figurez-vous qu'elle a gagné le concours, avec 1 000 $ à la clé. Pour Alaska, ça a été un déclic. Elle a pris conscience de son physique. Elle s'est mise à enchaîner les concours, toujours avec succès, puis elle a rapidement été démarchée pour apparaître dans des publicités. Ça restait à l'échelle régionale, une concession automobile, un restaurant, un magasin de bricolage, mais on l'a bientôt vue un peu partout à Salem. Elle était une célébrité locale. Les gens lui disaient « Eh, mais vous n'êtes pas la fille de la pub pour la pizzeria ?» Après le lycée, elle n'a pas voulu aller à l'université. Elle voulait se donner une chance de percer comme actrice. Elle gagnait sa vie avec ses concours ou ses pubs, et à côté, elle enchaînait les castings. Elle avait même une agente à New York. C'était sérieux. Elle postulait pour des rôles en se filmant dans la cuisine, avec le caméscope de mon mari. Elle avait tout pour aller au bout de ses rêves.
Donna se tut soudain, comme si elle n'avait plus de mots. Elle se leva et s'empara d'un épais livre relié posé sur la cheminée.
« Ce n'est pas la peine, » lui dit Robbie, masquant difficilement son agacement.
« Comme ça, ils verront, » lui répondit sa femme. « Ils verront comme elle était belle. »
Elle posa le livre sur la table devant nous et l'ouvrit. C'était un album fabriqué par ses soins consacrés à sa fille. Tout y était. Photos de famille, publicité pour un magasin de meubles extérieurs, une pizzeria ou un déstockage de pneus. Nous y vîmes Alaska, vivante et belle. Au milieu des collages et des pages volantes sur papier glacé, il y avait un book photo professionnel, réalisé selon l'en-tête pour l'agence DM à New York.
« Elle en était si fière !» nous raconta Donna Sanders. « Regardez quelle allure elle a !»«
Qu'est-ce que l'agence DM ?» demanda Gal Wood.
« Agence Dolores Mercado, c'est elle qui s'occupait d'Alaska. Elle disait qu'elle était très prometteuse. Elle croyait énormément en elle. Dolores nous avait dit... « Vous verrez, votre fille va devenir une vedette. » Alaska a participé à pas mal de castings pour des premiers rôles. Elle s'enfermait dans sa chambre avec le caméscope. « Regardez. »«
Pas les vidéos !» objecta Robbie Sanders. « Ces messieurs ne sont pas venus pour ça. »
Donna fit semblant de ne pas entendre les récriminations de son mari et manipula un vieux magnétoscope dont on se demandait comment il fonctionnait encore. Sur la vieille télévision à tube, probablement conservée pour l'occasion, une image de mauvaise qualité apparut. Et bientôt, le visage d'Alaska au tout premier plan qui venait d'allumer la caméra. Elle eut un sourire éclatant, arrangea ses cheveux et recula de quelques pas jusqu'à apparaître de plain pied. Et soudain sa voix.
« Bonjour, je m'appelle Alaska Sanders de Salem, Massachusetts. J'ai 21 ans et je postule pour le rôle d'Anna. »
Nous la regardâmes subjuguée réciter son texte. Difficile d'échapper à son magnétisme. La cassette terminée, l'écran se brouilla d'une neige de pixels blancs. Donna éteignit la télévision. Robbie Sanders essuya ses larmes. L'espace d'un instant, c'était comme si Alaska Sanders avait à nouveau existé.
« 11 ans qu'elle est partie, » nous dit alors Donna Sanders. « 11 ans, et je n'arrive toujours pas à accepter sa mort. Je n'ai jamais pu me faire à l'idée qu'elle n'était plus là. Mais comment pourrais-je me résigner à ce qu'une sale nuit d'avril 1999, quelqu'un ait pris la vie de ma fille? Sa chambre est toujours là, je n'y ai pas touché. Elle l'attend.
pas la chambre !» supplia Robbie Sanders. Mais Donna était déjà en train de se diriger vers l'escalier, nous exhortant à la suivre. Gaal, Wood et moi lui emboîtâmes le pas, mal à l'aise. Elle nous fit visiter son musée du fantôme, une chambre d'adolescente en tout point similaire à ce que nous avions vu quelques instants plus tôt sur les images de l'audition enregistrée par Alaska. Au centre de la pièce, un lit rond couvert de coussins roses. Face à la fenêtre, une coiffeuse en bois laqué. Sa penderie était encore pleine de vêtements. Les murs étaient restés tapissés de posters des groupes de l'époque. Goo Goo Dolls, Smashing Pumpkins, Blink 182, dont les couleurs avaient été délavées par le temps et le soleil. Chez les Sanders, on avait l'impression que tout était resté figé en 1999. Je finis par poser à Donna Sanders la question qui me brûlait les lèvres. Que s'est-il passé pour qu'Alaska se retrouve à Mount Pleasant? Pardonnez-moi si je suis un peu abrupte, mais à vous entendre, la prochaine étape de sa vie aurait plutôt dû être New York City ou Los Angeles.
Mais vous avez parfaitement raison, monsieur Goldman,
me répondit Donna en esquissant un sourire triste. Que s'est-il passé?
Elle a rencontré Walter Carré, cette espèce de raté à la petite semaine. Il lui a tourné la tête. C'était un bel homme, brut de décoffrage, assez séduisant. Il avait un côté sauvage. C'était un type costaud et rugueux, avec un côté ténébreux. Bref, tout ce qui peut plaire à cet âge.
Quand Alaska l'a-t-elle rencontré?
À l'été 1998, dans un bar à la mode, à Salem. Depuis qu'elle avait fêté ses 21 ans, elle sortait régulièrement.
Et pourriez-vous nous préciser quand, durant cet été 1998, Walter et Alaska se sont rencontrés?
Demanda Gaal Wood. Donna Sanders fit un effort de concentration.
Je n'en sais plus rien. Peut-être juin ou juillet. C'était en tout cas avant le grand concours de Miss Nouvelle-Angleterre. Le concours était fin septembre.
En quoi consistait ce concours?
C'était une des compétitions les plus en vue dans la région, réunissant des concurrentes du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Un concours professionnel, doté d'un premier prix de 15 000 dollars.
Concours qu'Alaska a remporté, non? Dis-je en me souvenant de l'article du Salem News consacré à la famille Sanders.
Exactement. Sa victoire avait fait grand bruit, tout le monde en parlait. Son agente disait même qu'un réalisateur de Hollywood avait eu un coup de cœur pour Alaska.
Et que s'est-il passé alors? Demandai-je.
Environ une semaine après le concours, Alaska a eu une dispute terrible,
nous révéla Donna. Une dispute avec qui?
Son père.
Pourquoi? Une voix nous répondit depuis le palier de la chambre. C'était Robbie Sanders qui nous avait rejoint sans bruit.
J'ai trouvé de la marijuana dans son sac.
Salem, vendredi 2 octobre 1998. Donna Sanders n'oublierait jamais ce jour où elle rentra chez elle. Elle revenait d'un voyage de 2 jours à Providence, dont sa famille était originaire, où elle avait dû régler avec ses sœurs les modalités de la vente de la maison de sa mère, décédée quelques mois plus tôt. C'était la fin de l'après-midi lorsqu'elle s'engagea dans l'allée de la maison. Une Ford Taurus noire était garée à cheval sur le trottoir. À son bord, Walter Carré. Il la salua d'un geste amical.
« Bonjour, Madame Sanders, »
lui dit-il par la fenêtre ouverte de sa voiture.
« Bonjour, Walter. Tu ne veux pas rentrer ?»«
Non, merci. Je vais y aller. Ça barde entre votre mari et Alaska. »«
Que se passe-t-il ? » ?»«
J'en sais rien, » répondit-il en enclenchant la marche arrière. « J'étais censé venir chercher Alaska. » On a prévu un week-end en amoureux. Quand je me suis pointé, Alaska était en train de se disputer avec votre mari. Elle m'a dit de partir et qu'elle me rejoindrait à Mount Pleasant avec sa voiture.
Donna se précipita vers la maison. À l'intérieur, elle entendit des cris résonner à l'étage. Elle gravit les escaliers. Dans la chambre d'Alaska, sa fille et Robbie s'invectivaient. Alaska jetait à la hâte des vêtements dans un sac de voyage.
« Que se passe-t-il ? »
s'écria Donna. Son intervention imposa un silence immédiat. Alaska avait le visage défait. Donna n'avait jamais vu sa fille dans cet état.
« Tu veux vraiment savoir ?»
demanda Alaska en larmes, avec une pointe de défi dans la voix.
« Évidemment que je veux savoir !»
Robbie Sanders annonça alors.
« J'ai trouvé de la marijuana dans les affaires d'Alaska !»«
Papa !»
hurla Alaska.
« Alaska !» se désola sa mère. « Non, pas toi !»«
Eh si !»
éructa Robbie. La confiance est trahie, je ne peux pas y croire.
Alaska, tu m'avais promis que tu n'y toucherais jamais. Tu te rends compte des conséquences? Si ça se sait, tu peux perdre ton titre de Miss Nouvelle-Angleterre et tu peux dire adieu à tes rêves de cinéma.
Alaska fusilla son père du regard, attrapa son sac et s'enfuit, les yeux pleins de larmes. Elle dévala les escaliers, récupéra ses clés de voiture et claqua la porte. Elle se précipita dans sa décapotable bleue et démarra. Donna Sanders déboula de la maison, suppliant Alaska de ne pas s'en aller.
« Attends, ma chérie, attends !»
Elle courut derrière la voiture de sa fille sur une centaine de mètres avant de se résigner à la voir disparaître.
« On aurait pu tout arranger, » nous assura Donna Sanders. « Évidemment, sur le moment, nous avons un peu surréagi. Alaska avait signé une charte éthique pour le concours de Miss Nouvelle-Angleterre. Elle s'engageait à ne pas boire, ne pas fumer, ne pas consommer de drogue, ne pas poser nue. Des tas de mères de famille jalouses auraient été ravies de la traîner dans la boue si elles l'avaient vue fumer un joint.
« Ce n'était qu'un peu d'herbe, » objectai-je.
« Ça peut vous paraître idiot aujourd'hui, Monsieur Goldman, » mais mon mari et moi avons reçu une éducation très stricte. Pour nous, fumer de la marijuana restait associé à de la consommation de drogue sans distinction. D'ailleurs, aux yeux de la loi, c'était une substance de même catégorie que l'héroïne. Et n'oubliez pas que c'était l'époque de la politique « fume un joint, tu perds ton permis ». Si on vous attrapait, assis sur un banc en train de fumer un joint, la sanction pénale était automatiquement assortie de 6 mois de suspension du permis de conduire.
Et donc, les choses ne se sont pas arrangées avec Alaska.
Non, elle nous en voulait trop. Comme si cet événement avait fait ressurgir une rage qu'elle gardait à l'intérieur. Je pense que cet idiot de Walter Carey lui a monté la tête. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, ni ce qui lui a fait miroiter, mais elle est partie s'installer chez lui à Mante Plaisante. Elle s'est accrochée à ce pauvre type qui habitait au-dessus du magasin de ses parents. Elle était complètement sous son charme, voilà la vérité. Elle était majeure, qu'est-ce que je pouvais faire ? La ramener de force à Salem, tout ça pour aller bosser dans une station-service et se faire tuer.
« Vous n'avez pas essayé de recoller les morceaux ?» demandai-je.
« J'ai tout tenté, en vain. Je me suis dit que le temps aiderait. Mais le temps ne répare rien, il amplifie les non-dits et les ressentiments. Je suis allé quelquefois à Mante Plaisante pour déjeuner ou boire un café avec Alaska. Mais quelque chose s'était brisé. Elle n'a même pas daigné revenir pour Thanksgiving ou pour Noël. » J'ai passé la journée de Noël à pleurer.
Après la visite aux Sanders, il nous restait un grand bout de journée devant nous. Puisque nous étions dans le Massachusetts, nous nous rendîmes à Boston, à une demi-heure de route, pour rendre visite à Patricia Whitsmith, l'avocate d'Eric Donovan.